9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Bonsoir tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Dans le Mille. On est rendu à quoi, 28?
Là, il est marqué 28, donc
ça
c'est le
passe
28e.
si vite. Ça va bien, Joe?
Ça va très bien, toi.
Ben oui, écoute, on fait ce premier épisode pendant un moment crucial de la carrière de Logan Mailloux. Donc, on vient de regarder les deux ensemble la première période de hockey LNH pour ce jeune joueur-là. Puis, on a hâte de voir la suite, justement. Donc, c'est son premier match à LNH. On en parle ce soir, on parle de Hudson. Mais avant ça, on voulait remercier nos deux partenaires. Donc, tout d'abord, Elite Prospect, notre site go-to de recherche, que ce soit des statistiques très simples comme points par match ou bien des comparaisons de joueurs. Tout est là. C'est le site gratuit de cette statistique le plus complet. Si vous voulez pousser ça encore plus loin, il y a l'abonnement annuel pour comparer des joueurs, des statistiques un peu plus avancées, leur parcours au complet. Avec DLM30, vous avez 30% de rabais.
On a aussi la compagnie Quick Feet, donc des semelles que tu mets dans tes patins qui ajoutent une petite touche pour perfectionner le coup de patin, rendre ça un peu plus confortable. Donc ici, vous avez le code sur la bande 10 pour avoir un code un rabais en fait de 10% sur le produit en ligne. Dans la description, vous pouvez trouver toutes ces informations-là. Fait que là, c'est ça. Regarde, on se lance direct dedans. C'est un moment vraiment crucial pour Mailloux qui joue son premier match. Il a joué sa première période à date. Il a eu une passe. Il s'est fait chambouler quand même, il s'est fait ramasser. Les gars de l'autre bord ont l'air de quand même avoir eu le mémo de le frapper puis de le déranger un peu. Mais c'est pareil, le défenseur qui a joué le plus de minutes. Donc vraiment, tu sais, hier, Hudson a été le troisième défenseur le plus utilisé. Là, ce soir, Mailloux est le plus utilisé dans la première période. Donc,
ben, à un moment donné, c'est ça aussi, ils n'ont plus le choix quand on regarde les trois lignes de défense pour Montréal qui, en rentrant dans le match. Il y en a une où il y a Struble aussi, sa première saison. Hudson aussi son deuxième match, puis l'autre où c'est Mailloux, c'est son premier match. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir qu'un jeune joue beaucoup de minutes. Puis, ils ont décidé de vraiment donner une vraie chance à Mailloux, c'est excellent. Si on compare aussi justement ce qu'on a vu de Hudson hier dans son premier match, puis Mailloux aujourd'hui, ben, je pense que ça donne quand même un bon comparatif sur quel type de joueur les deux sont. Hudson, quand on l'a vu jouer hier, on a vraiment, tu sais, puis il y avait un des commentateurs avant le match, je ne me souviens plus qui disait justement que lui, il voyait la prochaine superstar du Canadien qui était super hype dessus. Puis, écoute, sans m'avancer autant que lui, c'est le premier match, on essaye, mais Hudson, on voit vraiment un gars qui arrive en confiance, qui fait des jeux, tu sais, à son deuxième shift, qui a eu un assist, il s'avance, incroyable. On voit des passes extraordinaires, puis Mailloux, on voit un joueur arriver solide, encore une fois, c'est des matchs de test, un peu comme on disait avec Hainbacker, on peut pas trop s'avancer, faire des projections basées sur, surtout Mailloux, une période de jeu.
Non, c'est ça.
Mais on voit quand même la différence entre les deux prospects. Mailloux, c'est quelqu'un qui arrive, qui est une coche en dessous de ce qu'on a vu de Hudson hier à son premier match LNH quand même.
Oui, mais tu sais aussi, c'est ça. Mailloux, lui, il est un peu plus vieux. Il a un an de plus, techniquement, en âge de draft. Aussi, Mailloux a passé toute la saison dans la AHL. Donc, tu sais, il est habitué peut-être au système de jeu du Canadien un peu plus, parce qu'on sait qu'ils veulent répliquer la même chose à Laval. Il y a aussi plus, il connaît un peu plus le coaching staff. Donc, tu sais, c'est quand même justement, c'est pas la même affaire qu'Hudson qui vraiment débarque de notre équipe complètement, de notre ligue, et que là, il se ramasse avec du monde qui a jamais joué, alors que Mailloux a quand même participé au début de la saison dans des matchs. Tu sais, on s'entend, c'est pas beaucoup, là, mais des matchs hors saison qui sont quand même là pour qu'ils rencontrent les autres, puis qu'ils jouent avec. Tu sais, il a joué des matchs pour le Canadien, mais hors saison avec eux. Donc, tu sais, il y a quand même déjà là un peu de chimie. Ça aurait été cool de voir Jacky Mailloux dans la LNH parce que ça marchait bien en AHL. Mais tu sais, vraiment, c'est peut-être juste l'affaire que Hudson, c'est le prospect qui était le plus, puis qui l'a encore, comme ça fait juste un match, une période, là, mais c'est le prospect le plus excitant du Canadien. Tu sais, c'est un gars qui est comme un P.K. Subban. Il va venir soulever une foule, il va venir faire des... tu sais, juste tantôt, sa première possession en zone offensive au Centre Bell, quand il a commencé à faire ses petits pas là, de switcher de côté et tout, là, tout d'un coup, le son a augmenté. T'sais, c'est un gars qui va te faire vendre des billets. Mailloux sûrement aussi, mais c'est vraiment pas le même type. C'est beaucoup plus...
Mailloux, il y a un plus gros... Admettons, si on prend les points faibles à Mayu de travailler, c'est des choses qui paraissent beaucoup plus un peu dégueu, là. Quand on regarde un match de hockey, admettons, Mayu, c'est quelqu'un qui va aller prendre la mauvaise décision, qui va mal se positionner. Souvent, ce qu'on entend de Mayu, c'est qu'il y a des bulles au cerveau. Puis souvent, quand tu regardes un match, ça te saute aux yeux, tu es comme, mais qu'est-ce qu'il fait? Une mauvaise passe, ça va arriver à Mayu. Tandis que Hudson, c'est les problèmes, ce qu'on disait qu'il allait avoir à travailler quand il arrive en LNH, c'est des trucs qui sont beaucoup plus discrets. Donc, tu sais, on dit un jeu physique, c'est sûr que ça va paraître, mais ça ne va pas paraître comme, ah, oh, Hudson, qu'est-ce que tu fais? Sois plus gros. Non, c'est sûr que c'est une courbe d'adaptation, puis c'est sûr qu'il y a des moments où le placement d'Hudson va tirer un petit peu de l'arrière, mais c'est beaucoup moins des trucs, je pense, qui sautent aux yeux que justement les problèmes que Mayo a réglés. Fait qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Puis c'est juste aussi au niveau de comment est-ce que tu deals avec la pression, pas la pression de comme tu joues au Centre Bell, mais la pression dans le sens sur la glace, soit deux joueurs qui viennent vers toi. Hudson, qui jouait à NCAA juste avant, on dirait que lui, là-dessus, c'est déjà quelque chose qui est acquis. Peu importe le niveau, la pression, il est habitué à faire ses jeux rapides. C'est comme un peu dans son DNA de joueur. Alors, tandis que Mayu, c'est sûr qu'une année en AHL, ça a énormément aidé là-dessus, mais ça fait pas autant partie de son jeu que Hudson. Puis, écoute, je pense qu'à la fin de la journée, faut quand même se le dire, c'est pas. Oui, c'est drôle de dire parce que Mayo a été pris dans une ronde plus haute que Hudson, donc il a été pris en fin de première ronde, mais c'est pas le même calibre de prospect. T'sais, Hudson, le premier truc qu'on s'est dit, un des premiers trucs qu'on s'est dit après avoir regardé son match hier, c'est que ce gars-là et LNH, oui, il y a des petits problèmes à régler, mais il ne touchera pas à Laval. Tandis que Mayo, je pense que tout le monde était d'accord que sa première saison à Laval, c'était la bonne chose à faire dans son développement. Puis écoute, on l'a vu aller au match des étoiles du AHL. Je pense que cette année, le développement de Mayo n'aurait pas pu mieux aller. Puis c'était il n'y aurait pas une meilleure décision à prendre que justement le laisser un an à Laval, malgré le fait qu'il est un petit peu plus vieux.
Ouais, puis tout le monde qui l'a regardé dans le junior, vraiment cette année, ils ont fait, ben voyons donc, c'est toutes justement, les gros, gros problèmes qu'il y avait dans son jeu défensif, surtout, ne sont plus là. Fait que vraiment, une année incroyable de développement à Laval. Mais aussi, moi, ce que je veux parler, c'est ça. Est-ce que, mettons là, parce que j'entendais tantôt, là, oh, si c'est Mayu ou Hudson, lequel qui va commencer avec le Canadien l'année prochaine? Moi, sincèrement, si je pouvais, je passe avec le Canadien, qu'est-ce que Kent Hughes et l'organisation sont en train de regarder, c'est quoi qu'ils ont comme asset, c'est quoi qu'ils ont comme joueur qui peut être dans la LNH. Puis en ce moment, je pense qu'il y en a huit. Je pense qu'il y a huit défenseurs vraiment qui peuvent être dans la Ligue nationale à un haut niveau. Là. Puis là, je parle pas de Goulet et Jacky qui sont blessés. Fait que je parle de comme huit à l'extérieur de tout ça. Puis tu sais, moi, je pense même que Ryan Backer va venir pousser. Engström avait bien joué dans le camp de développement. Donc, tu sais, après, moi, je pense qu'Engström et Ryan Backer, c'est envoyé à Laval. Mais je pense vraiment qu'un Mayu puis un Hudson, tu regardes ça puis tu te dis, tu sais, qu'est-ce que Hudson a vraiment tant que ça à améliorer en allant dans AHL quand lui, ça fait 2 ans que c'est quasiment ben, pas quasiment, c'est le meilleur défenseur de la NCAA. Il débarque dans la Ligue nationale. Il fait ce qu'il fait hier. Moi, sincèrement, je pense que cet été, ça va être très intéressant juste parce que c'est justement ces deux gars-là qui jouent en ce moment pour le Canadien vont être obligés de jouer dans la Ligue nationale dès le premier match l'année prochaine parce qu'à un moment donné, tu peux pas juste les laisser poireauter dans AHL. Fait que ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qui se passe cet été, tu sais, des échanges, des signatures, whatever, mais ça va être vraiment challengeant.
Puis écoute, pour aussi un contrat d'entrée qui a été donné un petit peu moins excitant que Hudson, il y a aussi eu Luke Tuck qui a été signé à un contrat de 2 ans. Donc, tu sais,
commence l'année prochaine.
Comment c'est ça, donc, cette saison pour le moment? Ben, on a vu, il a fait son headshot à Laval, il est en train de s'entraîner
Ben, c'est
avec
ça.
l'équipe,
Il
mais
a signé avec Laval
c'est ça. Mais
séparément.
en gros, Hudson brûle une saison de son contrat de 3 ans. C'est comme ça revient un peu au même. Hudson a signé un contrat de 3 ans, vu qu'il joue des matchs cette saison, ça brûle une année, fait que l'année prochaine, il va être à la deuxième année de son contrat techniquement.
Techniquement, je
Luke
pense pas. Ouais.
Tuck, il signe un contrat de 2 ans, puis il fait un trial cette saison. Donc, en gros, ça revient que les deux, l'année prochaine, vont leur rester 2 ans. Puis Luke Tuck, on parlait de comme Mayu, puis Hudson, ça sert à rien de les laisser poireauter en AHL. Lui, c'est le contraire. C'est un grand allié. Justement, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va s'adapter au jeu physique de la AHL. C'est un joueur, on en avait parlé un petit peu avec Adi dans le podcast, un joueur qui est prévisible, qui complète bien le trio. Donc, tu sais, ça pourrait être à surprendre, mais c'est vraiment le type de joueur que je pense que s'il est mis dans la bonne situation, peut bien performer, mais c'est pas celui qui va te driver ta ligne.
Non.
Mais ça pourrait, tu sais, quand on regarde souvent les critiques de tu sais, pourquoi est-ce qu'on veut pas que Montréal aille nécessairement prendre un petit joueur au draft? Pourquoi est-ce que l'année dernière, on voulait pas que Montréal aille prendre un Benson? On dit, ah, oh, c'est parce que le top 6 de Montréal deviendrait trop petit. Ben, tu sais, des petits prospects comme ça, comme Florian Jacquet, Luke Tuck, c'est des joueurs que ça ne va pas être la pièce qui va être shiny de ton top 6, mais admettons, à un moment donné, si tu as besoin d'un gros allié puis qui est capable de scorer, mettre des points pour finir deux très belles pièces de top 6, ça pourrait rentrer là, tu sais, potentiellement. Après, on ne sait pas de quoi le top 6 va avoir l'air pour le moment encore au complet, fait que c'est
Pour
difficile de
Laval,
dire
ça, tu parles?
pour Montréal.
Pour Montréal, ouais. Tuck et Jacky, ça m'étonnerait, par exemple,
Non,
qu'ils
ça étonne.
atteignent.
Mais je ne dis pas que ça va être des. Je dis pas que c'est là leur place. Admettons, tu prends une équipe, c'est pas là que tu le places. Mais admettons, tu as. Moi, Luke Tuck, je pense que c'est un gars que, à son meilleur, tu peux le faire fitter dans un trio avec deux très bons joueurs, puis il va venir compléter ça. Je
Ouais,
pense que c'est vraiment
vraiment.
quelqu'un qui vient comme une pièce à un puzzle. Lui tout seul, ça peut pas nécessairement être excitant, mais dans la bonne situation, ça peut vraiment bien compléter, surtout dans une équipe où on dit qu'il manque un petit peu de grandeur, de robustesse.
Mais tu sais, c'est Tuck à quelque part, puis c'est pas vraiment le même style de jeu, quoique ils ont des ressemblances, mais je le vois un peu comme une espèce d'Anderson. C'est ça. C'est un gars qui il peut t'en amener du bon stock, mais ça se peut aussi qu'il t'amène rien. Puis cette saison, il y a eu une bonne saison offensive, mais pourquoi il y a eu ces stats-là? Il était beaucoup avec Celebrini puis Hudson, tu sais, quand il était pairé offensivement, défensivement, là. Mais aussi, Tuck, qu'est-ce qui est intéressant, c'est avec l'arrivée de Jacky, puis là je parle de Florian. Là on se ramasse avec Florian et Lou qui sont des gros gaillards qui frappent, qui intimident. Donc tu sais ça rajoute justement un côté mine à Laval, un côté jeune mais mine. Fait que vraiment je trouve que c'est un très bon ajout. Moi je suis content qu'on l'ait signé Luke Tuck. Je
Ah
pense
ouais.
que il y a justement, tu sais, un gars qui est gros de même puis qui a des bonnes habiletés en désavantages numériques, qui patine bien. Au final, tu sais, juste pour ce frame-là, tu pourrais le mettre dans la Ligue nationale puis il serait capable de remplir un rôle, tu sais, comme un Pezzetta au final. Tu sais, ça pourrait juste être un gars vraiment de quatrième trio de rôle. Mais, tu sais, ça va être intéressant de voir, je veux dire. Tu sais, c'est pas les prospects les plus intrigants
Excitant.
puis les plus excitants, mais c'est juste des gars que tu dis, ben regarde,
Ça peut être des belles surprises.
ça peut être des belles surprises, ça peut être, tu sais, puis justement ici, sur la bande, qui crie justement qu'il y a un peu comme Burroughs avec les Sedin, ben c'est ça, tu sais, c'est des fois, c'est pas les gars les plus de talent, mais c'est juste un gars qui va aller créer de l'espace. C'est
Ben
un
oui.
Luke Tuck peut aller créer de l'espace devant, puis si tu as, mettons, un Joshua Roy puis un Newhook qui peuvent justement avoir plus de temps pour se promener puis faire des jeux. Tu sais, on sait jamais comment ça va se
Juste l'année
promener, là.
dernière, on avait vu, admettons, à quel point est-ce qu'Harvey Pinard avait bien performé quand il y a eu plus de temps avec une top ligne. Là, après, c'est juste qu'Harvey Pinard, son build n'amène rien. Il n'y a pas de upside à le faire jouer sur ton top 6. Oui, il met des buts, mais tu sais, tu as d'autres joueurs qui peuvent amener ça. Le Luke Tuck, si, il peut performer un peu au niveau de points comme Harvey Pinard quand il est matché avec les grosses lignes, puis qu'en plus, il amène une robustesse, tu sais, tu as quand même
C'est ça.
un cas pour le faire jouer sur les lignes plus hautes. Mais c'est tellement difficile à prédire sans l'avoir vu jouer un match professionnel. Fait qu'à voir, mais tu sais, c'est plus pour expliquer les raisons de pourquoi est-ce qu'il l'aurait signé. Puis.
Puis moi, le côté des avantages numériques, je trouve que
Ouais.
c'est vraiment un plus parce que
Ben, il en faut.
c'est un gars qui bloque des tirs, c'est un gars qui va jouer de la bonne manière en désavantages numériques. Donc, tu sais, quand on parle d'un Beck qui va sûrement slot dans le troisième centre, tu sais, qui va être un gars plus défensif aussi, mais qui va être capable d'amener de l'attaque. Donc, tu sais, est-ce qu'un Beck avec un Tuck, ça peut être intéressant? Puis on ne sait pas qui se ramasse à gauche. Un Heinemann qui est capable aussi. Tu sais, tout est intéressant, là. Puis ce qui est vraiment le fun en ce moment, justement, c'est que là, les jeunes, le noyau d'âge que le Canadien veulent à peu près builder leur équipe pour les prochaines années autour, commence à être du monde de 19, 20, 21, 22 ans. Tu sais, tous les gars du draft de 2020 à 2021 environ, là. Tu sais, c'est tous des gars qui commencent à vraiment avoir l'âge. Même 2022, là, tu sais, on a Hudson puis Slaf dans LNH, tu auras Beck en NHL sûrement l'année prochaine. Donc, tu sais, c'est ça, tranquillement, ça va rentrer, puis à un moment donné, tu sais, on le voit déjà que ça commence à coincer, là, dans la défense, ça coince. Fait que c'est vraiment, on va attendre encore parce que je pense qu'il y aura plusieurs nouvelles qui vont s'en venir. Mais, tu sais, pour l'instant, c'est ça qui se passe.
Puis pour rester sur du hockey, justement, on parlait de Luke Tuck, on parlait d'Hudson. Fait que pour rester un petit peu sur du hockey, NCAA, déjà tout d'abord, avant de vous donner des joueurs qui font leur début en LNH, on a eu la finale du Frozen Four. Une victoire convaincante quand même de Denver. Écoute, Denver, je pense qu'on avait fait un petit peu le profil. Si vous retournez à notre Playoff Picture de NCAA, je pense que ça fait 3 épisodes à peu près. On en a parlé de Denver. Bien sûr, le nom qui est sur les lèvres de tout le monde, c'est Yves Bouilleum. Une très bonne finale, solide défensivement. Donc, attendez-vous à le voir sortir au repêchage. Il était placé aussi sur la liste de la centrale qui est sortie aujourd'hui ou hier, je ne me souviens plus. Et puis aussi, leur offense, l'idée par Jack Devine qui pourrait s'en venir comme étant tout un style en septième ronde. Donc, ouais. Écoute, avant de lancer les joueurs qui font leur début en LNH, je voulais quand même mentionner le championnat de Denver.
Oui, puis moi, je veux juste rappeler que quand je parlais, j'avais parlé juste, tu sais, je pense il y a 2 semaines, non, c'est un mois à peu près. On avait fait un petit topo sur les playoffs NCAA féminin, puis moi,
c'est
j'avais fait
ça que
un
tu disais,
topo
ouais.
NCAA, c'est ça. Ben, moi, quand à ce moment-là, j'avais parlé des 8 équipes, j'avais parlé plus précisément de BC, BU, puis Denver, puis justement, dans mes notes de Denver, c'était marqué « Team NCAA bien bâti, rien de flashy », puis c'est ça qu'ils nous ont donné. Qu'est-ce qui s'est passé en finale? Ils ont été capables de blanchir Leonard, Gauthier, Perrault, Smith. Ils ont été capables de marquer des buts contre Jacob Fowler, qui a été vraiment un goaler incroyable toute la saison, même jusqu'en série. Matt Davis, un goaler, oui, quand même 23 ans, là, mais c'est super game, hyper bien bâti comme équipe, hyper structuré. Je veux dire, sincèrement, moi, je me demandais comment tu pouvais bloquer au niveau NCAA, comment tu pouvais bloquer la frappe de BC avec ces 4 attaquants-là incroyables. Puis, ben, regarde, ils l'ont fait. Fait que, sincèrement, bravo à Denver. Je veux dire, on en a parlé un peu avec Sean Lanou, mais le coach de Denver, de David Carl, incroyable. Je veux dire, 2 championnats en 3 ans. Puis en plus, il a gagné le championnat avec les États-Unis en U20. Fait que je sais pas ce gars-là, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les contrats, mais ça m'étonnerait pas qu'on commence à voir son nom un peu autour AHL, NHL, parce que vraiment, il fait une bonne affaire. Puis c'est, en tout cas, c'est vraiment, tu sais, il y a Bouyum, mais t'as aussi son frère, Shai, qui est un prospect des Red Wings. Puis il y avait aussi Behrens, Sean Behrens, que ça a peut-être été un peu plus dur, mais c'est quand même un prospect qui pourrait s'en venir pour l'Avalanche bientôt. Donc, vraiment, ouais, c'est ça. Denver est très fort.
Juste vu que la saison NCAA est finie, on voit beaucoup de. Ben, tu sais, je dis NCAA, mais on voit beaucoup de départs en LNH, un peu à la Hudson, à la Mayo, dans la LNH, partout. C'est juste ce soir, je pense, à Columbus, c'était quoi? C'était Malatesta qui joue pas son premier match, mais dans les débuts.
Dans les débuts, ouais.
Et plus Delbelouz aussi qui vient de marquer son premier but.
Je sais juste pas si lui, c'est son premier match à vue.
Delbelouz, je sais pas si c'est son premier match. Delbelouz, je sais pas si les deux, c'est leur premier match, mais Delbelouz, c'est son premier but ce soir. Puis Malatesta, je sais que c'est pas son premier match, mais elle vient de marquer un beau but. Puis c'est deux. Ça reste dans le thème que c'est des gens qui viennent de faire leur début, même si c'était un petit peu plus tôt. Pour, admettons, un Malatesta.
Il y a 3 gars qui font leur début avec les Hurricanes. Il y en a un qui ça fait un peu plus longtemps qu'il est dans la ligue, Maxime Comtois, qui fait son premier match NHL. Donc, c'est cool de voir que lui, il n'est plus juste à AHL. Il a eu son contrat signé avec les Hurricanes au milieu de la saison, puis il restait avec les Wolves. Mais là, il s'en vient. Il a fait sa première passe sur le but de Kotkaniemi. Mais il y a aussi des gradués de la NCAA. Donc, il y a Jackson Blake, un gars que je vous avais parlé encore une fois dans le topo
les
playoffs d'NCAA. Puis j'avais dit justement que Jackson Blake, c'était vraiment le gars qui leadait North Dakota. Donc vraiment, tu sais, ce gars-là, je vous dirais que ça va être un joueur, tu sais, milieu de line-up. C'est pas un prospect qui est ultra excitant, mais c'est un gars qui qu'est-ce qu'il faut pour jouer dans la Ligue nationale. Mais il y a aussi Bradley Nadeau, qui lui est tout un vol en ce moment. Là, si on regarde ça, là, il joue son premier match NHL ce soir. Lui a été repêché en fin de première ronde l'année passée. Donc, tu sais, c'est un gars qui vient de finir sa première saison NCAA là, avec le Maine. Et déjà, bam, il s'en va dans la Ligue nationale. Lui, il niaise pas avec la POC, mais tu sais, on se demandait, est-ce que Blake, puis Nado, puis Morrow, ils signent avec Caroline, mais Caroline, ils n'ont pas d'équipe AHL. Qu'est-ce que ça veut dire? Là? Parce que Nado, s'il signe avec Hurricanes, c'est parce qu'il ne retourne pas à NCAA. Mais donc, ça veut clairement dire que lui...
quand même important pour Morrow, Blake et Nado. Morrow et Nado vont vraiment avoir des vraies chances de faire la LNH puis de jouer des grosses minutes l'année prochaine si tout se passe bien cet été, mais important quand même de noter qu'il y a de fortes probabilités que justement, la Caroline ait trouvé une entente pour la AHL. Puis c'est des gars qui, potentiellement, dépendamment de comment leur premier match se passe puis comment leur été se passe, pourraient aussi se retrouver avec Chicago. Mais il y a des joueurs là-dedans, en tout cas 2 vraiment clairs, là, Nadeau puis Morrow, qui ont le talent pour potentiellement faire le opening roster de Hurricane l'année prochaine.
Ouais, même s'ils sont ultra forts, les Hurricanes, ils auront un problème de cap. Et donc, à rentrer un Nadeau, mettons, là, ou un Blake, sur ton 3e, 4e trio, ça peut vraiment faire du bien en termes d'argent. Parce que là, même, on sait... que tu sais, ils vont peut-être avoir de la difficulté pour Guentzel.
Ouais.
Teravainen, tu sais, c'est quand même, ils ont longtemps eu beaucoup d'argent, là, les
Il
Hurricanes, mais là,
devrait
ça peut coincer.
il devrait appeler le manager financier de Vegas.
De Vegas, hein, ouais, faire un petit tour à la ligue, mais pour parler de Nando aussi, faut juste, on peut pas l'oublier, là. Ses droits de la CHL sont à Rimouski. Il y a des rumeurs comme quoi le DG de Rimouski travaille très fort sur le dossier Nando pour l'avoir l'année prochaine. Donc, est-ce que si justement la Caroline ont pas de AHL puis qu'il fait pas la team de la Caroline, est-ce qu'ils vont l'envoyer à
Caroline,
la SHMQ?
Ce serait un, moi, honnêtement,
ça
je trouve
incroyable,
que ça serait incroyable pour Rimouski. Moi, je trouve que honnêtement, au niveau de développement de joueurs, c'est un désastre leur situation cette année. Dans le sens renvoyer des joueurs comme Robbie Dastagny en ECHL qui se blesse pour les playoffs. Écoute, qu'est-ce qui aurait se passé en HL? Peut-être qu'il serait blessé pour les playoffs aussi, mais ça servait à rien cette saison ECHL-là. C'est juste qu'on peut trouver d'autres options pour le faire jouer en HL. Des Gunlers qui auraient vraiment gagné fort, fort, fort à jouer en HL. Puis là, écoute, on se retrouve justement avec un Bradley Nado. Et pour Rimouski, si vous êtes un fan de Rimouski, je vous le souhaite d'avoir Bradley Nado, mais honnêtement, au niveau de développement de joueurs, si, une fois qu'il a joué son premier match, ça serait un désastre complet de voir ce gars-là retourner au junior. Qu'est-ce que ça lui amènerait? Rien.
Ouais, c'est ça,
un joueur qui potentiellement pourrait être super productif. Puis souvent, quand, admettons, on met cher avec le Canadien, pourquoi est-ce qu'on le renvoie au junior? C'est parce qu'il a le potentiel de produire énormément, mais il n'a pas encore la confiance, les endroits où attaquer. Il faut qu'il maîtrise un peu plus cette habileté-là d'être un superstar producer. Pas que c'est ça que ça va être, là, mais que taper vraiment dans ce potentiel-là le plus possible. Puis Nado, ben, il l'a déjà fait, puis à un niveau plus haut. Là, fait que, tu sais, renvoyer. On s'entend
non,
que NCAA Junior, c'est quand même une coche un petit peu en dessous de NCAA. Fait que ce serait comme, genre, être rétrogradé pour. Je vois pas ce que ça amènerait aux joueurs, là, honnêtement. Surtout, tu vois, LHMQ aussi, tu sais, tu pourrais dire, ah, pour amener son jeu physique, mais LHMQ, c'est pas une ligue très physique, tu sais.
Non, puis je veux dire, tu sais.
Je dirais pas de.
Nado, il s'est pas développé longtemps au Québec. Nado, 30e overall l'année passée, il a déjà joué une saison NCAA où est-ce qu'il fait 47 points en 33 matchs.
Moi, j'y crois
vraiment
pas,
quelque chose à. Non, moi non plus.
Ben, que le GM essaye, oui.
Que le GM essaye,
mais
il faut
essayer. Qu'on va le voir l'année prochaine dans un chandail de l'Océanique.
Après, est-ce qu'il peut aller chercher Nado en disant la Memorial Cup? Ah, peut-être, mais même là, je pense que Nado, il s'en fout de la Memorial Cup quand lui, il a joué dans un championnat NCAA. Donc,
il joue NHL en ce moment.
Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a ça, mais il y en a aussi un qu'on ne doit pas oublier. On parlait des agents libres. Les meilleurs agents libres de la NCAA, puis Colin Graff en était un, et Colin Graff a signé avec San Jose, et il joue présentement avec San Jose. On peut se demander pourquoi il voudrait aller avec San Jose, ben c'est bien simple. Ça doit être l'équipe la plus opportune pour lui en termes d'être une place dans la Ligue nationale assurée, puis tu sais, Colin Graff, je le trouvais très bon à NCAA, là, mais j'ai regardé deux games de San Jose avec Graff, et sincèrement, on dirait un Zach Aston-Reese, on dirait un,
ben,
on dirait un gars qui, il a, on parlait du fait qu'il avait travaillé son côté de devenir un plan B, là, devenir un bottom six, mais sincèrement, il y a des croûtes à manger parce qu'il se fait tasser de la bande ultra facilement, ça va pas assez, ça va beaucoup trop vite pour lui, donc je lui souhaite un bon été, puis là, sûrement qu'il voit c'est quoi le niveau qu'il faut qu'il atteigne, là, mais sincèrement, il est pas prêt pantoute pour la LNH. Puis c'est pour ça aussi qu'on dit à chaque fois les agents libres NCAA là, c'est ultra rare, même je sais pas si c'est déjà arrivé qu'un agent libre NCAA se fasse signer et devienne un joueur de top 6 et, la plupart du temps c'est des gars qui sont très bons mais que tu sais ils auraient jamais été même justement il y a des gars dans ce stage là ils auraient jamais été capables de jouer dans la LHMQ OHL WHL parce que Leur développement a pris beaucoup plus de temps.
C'est 20 ans, c'est ça.
C'est, fait que, tu sais, il y a des gars que c'est à partir de 21, 22 ans qui commencent à vraiment rentrer dans leur build.
Puis pour revenir là-dessus, si, quand ça commence à cliquer aussi à un certain niveau, que c'est NCAA, si ça ne marchait pas tant en USHL, passer pour aller se faire drafter, puis que ça marche en NCAA, après que ça fait 3-4 ans que tu joues avec la même équipe, potentiellement que c'est juste un système d'équipe qui vient extrêmement bien compléter ton type de joueur que tu es. Puis tantôt, on parlait de Luke Tuck, ça pourrait être un questionnement aussi à propos de Luke Tuck. Fait que tu sais, à garder en tête, mais tu sais, Colin Graff, justement, là, ça a flashé super bien à NCAA, mais ça fait 4 ans, je pense, qui travaille ce style de jeu-là exactement, même s'il y a eu des améliorations. Ce n'est pas un joueur complètement différent que ce qu'on lui critiquait la saison dernière. Oui, ça s'est amélioré, mais ça ne veut pas dire que c'est disparu complètement non plus.
Non, non, tu sais, c'est ça. Une passe en 6 matchs. Puis je suis pas en train de dire que c'est mauvais, là, mais c'est vraiment juste. Je trouve vraiment juste que il y a des trucs, des fois, tu les regardes et tu te dis, ah oh ouais, il manque vraiment quelque chose en ce moment. C'est intéressant, tu sais, il est pas vieux, il a 21 ans, mais c'est ça. C'est pas ce qu'on pensait. Puis son camarade, Jacob Quillen, qui lui est un gars beaucoup plus de bottom six, que lui, il n'a pas le upside d'être top six comme un Graf qui pourrait aller atteindre ce côté-là talentueux de plus. Mais lui, Quillen, il joue avec les Marlies, pas de points en 4 matchs, mais tu sais, c'est ça. C'est pas un gars qu'on va chercher les points, alors que Graf, c'est un gars qui a besoin de ses points pour fonctionner.
Écoute, pour rester dans du hockey qui s'est passé en fin de semaine, la fin de semaine derrière, on parle des débuts. Je vais changer aussi, parler du championnat mondial féminin qui s'est fini dimanche, il me semble. Donc, il y a eu une finale Canada contre États-Unis. Puis honnêtement, à part si vous êtes un fan de hockey qui est défensif, de gardien de but, ça n'a pas été un super bon match pour en fait aucune des deux gardiennes. Là. C'est ouais. Un peu leur nightmare, leur cauchemar comme match, mais en niveau juste de fan de hockey puis d'appréciation au niveau de jeu, ça a été, je pense, le meilleur match de l'année pour le moment. Ça avait l'intensité, justement, d'un match-set de finale de la Coupe Stanley. Ces deux équipes qui voulaient absolument gagner. L'année dernière, le tournoi était au Canada. Les États-Unis avaient gagné sur la terre canadienne. Donc, cette année, le Canada avait l'occasion de refaire l'appareil. Puis, il y a eu des moments où, justement, on pensait que les États-Unis allaient réussir à le faire deux fois d'affilée. Écoute, le match a fini 6-5 sur un but en avantage numérique en première prolongation. Incroyable. Puis, écoute, ce qui était intéressant aussi là-dedans, c'est qu'il y a un mix de joueurs PWHL avec ouais. des joueurs qui s'en viennent dans la PWHL bientôt. Donc, si vous avez suivi un petit peu ce qui arrive au repêchage, on a vu Sarah Fillier qui arrive puis qui va sûrement être le premier pick overall au draft PWHL cette saison. On a eu aussi Anna Blika, qu'on en avait parlé aussi dans le recap de la NCAA qui jouait pour Ohio. Donc, encore un pick qu'on parle de top 5. Puis, on a vu aussi, moi, une surprise que j'ai eue dans le match puis une surprise de ce tournoi-là overall. C'était Edwards pour les États-Unis qui a marqué. Quand il a marqué son but en finale, je ne sais pas au final ses statistiques ressemblaient à quoi, mais il avait montré un graphe comme quoi elle avait marqué 7 buts sur 10 tirs pendant le tournoi. Donc, tu sais, ça pourrait être tout un outil offensif pour une équipe de PWHL. Puis aussi, on avait Kristen Sims pour les États-Unis qui, elle, écoute, on parle du tournoi international, là, pas d'un tournoi U20, puis elle a 19 ans. 71 points, c'est sûr qu'elle va être là. Puis, elle n'a pas l'air hors de place. Ça me fait penser vraiment, tu sais, pour vous mettre un comparable, là, si vous êtes grand fan de hockey masculin, puis c'est ça que ça vous prend pour switcher, puis justement donner cette station-là. C'est comme si on voyait un tournoi Coupe du monde du hockey avec tous les meilleurs joueurs, puis que justement Connor Bedard était là, puis il jouait. C'est ce niveau-là. Kristen Sims, 19 ans, puis elle joue sur une patinoire avec des Marie-Philippe Poulin contre des gardiens de but, des biens. Puis elle performe comme ça. Écoute, est-ce que ça a été la star du match? Non, mais elle a l'air vraiment à sa place. Puis c'était vraiment impressionnant. Là. C'est vraiment, c'est incomparable. C'est comme si Bedard arrivait puis jouait avec Team Canada.
Oui, puis pour les joueuses de Montréal, ça a très bien été aussi. Ouais. Là, on fait juste regarder Kristen O'Neill puis Laura Stacey dans les tops de Team Canada. Puis là, tu as parlé d'Edwards. Mais tu sais, il y a Edwards, il y a Sims. Les États-Unis sont vraiment allés dans quand même un peu plus dans la jeunesse. Il y a des 2004, des 2005. Là, encore une fois, c'est ça. Je pense pas qu'on a une liste des joueurs qui se sont déclarés. Donc, on peut pas savoir lesquels se sont déclarés, à moins que tu aies entendu des
filles. Je pense pas
qu'Edwards et Sims se sont déclarés.
Non, Sims, non. Les deux filles qui se sont déclarées, qu'on sait qu'ils vont être au draft. Tout pointe vers ça, là, c'est Fillier puis Anna Blika. Edwards et Sim, c'est les présentes dans l'aspect futures joueuses de PWHL qui vont amener énormément. Christian Sims va faire une carrière en NCAA avant d'arriver en PWHL. Elle a un peu le même timeline. Si on prédisait là, sur quoi il fallait mettre de l'argent, ce serait un peu le même timeline que quand on parlait à une Gabrielle Santerre ou une Émilie Lucier dans nos épisodes précédents de « Je veux finir mon université, il reste encore au moins 3 ans, puis après ça, elle va jouer en PWHL. Christian Sims, ça va être ça. » Surtout que sa première saison, 71 points, cette fille-là aurait le potentiel de partir de la NCAA en ayant la meilleure carrière de l'histoire, offensivement parlant, d'une joueuse en NCAA.
Ouais, puis tu sais, je me demande juste moi, parce que c'est quand même différent, là, même si c'est féminin, masculin, mais masculin, c'est beaucoup plus pas prôné, mais accessible, on dirait, de partir à 20 ans de l'université, à 19 ans même, là, tu sais. Celebrini, là, il retourne pas à l'université. Fantilli, il retourne pas à l'université. Brindley, il est allé direct après son année de draft. On a parlé de Nadeau tantôt. Alors que féminin, c'est quand même plus Thomas Sims, même si elle a eu une saison incroyable. Il y a quand même plus encore la logique de non,
Ouais.
on fait le diplôme comme Lucier. Saison incroyable.
Je
Non,
veux mon
je
bac.
veux finir mon bac. Donc, tu sais, est-ce que ça va changer avec le temps quand les salaires vont être
Ben,
meilleurs
c'est
parce que
ça.
WHL, il y aura plus de. Tu sais, est-ce que ça va changer? On ne sait
Mais.
pas, mais moi, je pense que vite, les joueurs vont quand même commencer à se déclarer plus tôt parce qu'à un moment donné, tu sais, justement, pour elle aussi, là, à quel point Sims peut dépasser, tu sais, Fillier, on se demandait qu'est-ce qu'elle pourrait faire de mieux, mais elle l'a fait de mieux. Elle est allée chercher plus de points, elle s'est rendue encore plus complète.
Ouais, ils ont
Puis
amené.
là, elle était vraiment, tu sais, une doyenne dans le NCAA. Fait que là, c'est ça. Moi, je me demande un peu,
Mais.
tu sais, à quel point ces joueuses-là, à un moment donné, vont se faire conseiller, hey, non, non, quitte la NCAA, puis va t'en jouer, tu sais.
Mais moi, j'ai vraiment hâte que, parce que je le sais qu'à un moment donné, ça va arriver, là, tu sais, peut-être, ben, en tout cas, au draft cette année, à moins d'une énorme surprise, c'est sûr que ça n'arrive pas, mais à un moment donné, là, une joueuse de 18-19 ans qui se dit, hey, moi, je suis 100% confiante en mes habiletés d'aller jouer en PWHL, qui va voir le niveau de jeu. Admettons une Kristen Sim qui, cette année, dit, je suis allé en finale, j'ai fait ce que j'avais à faire, 71 points, il me reste rien à prouver, je suis prêt, puis qui va arriver, puis j'ai vraiment hâte de voir ça. Justement, c'est ça que. Il n'y a pas un peu dans la PWHL cette année. C'est la star à la Bedard un peu. Là, c'était la Taylor Heisey. Taylor Heisey, elle avait déjà fait sa carrière de NCAA. On savait à quoi s'attendre en PWHL. On savait que justement, ça fitait déjà. Puis elle avait déjà aussi beaucoup d'expérience internationale. Moi, j'ai hâte de voir justement une Kristen Sims. Elle a fait une saison à NCAA. Une star comme ça, là, qui est vraiment excitante, puis que boum, la saison d'après, un peu comme une Bedard, on la voit en PWHL. Puis tu sais. Ça peut amener aussi beaucoup de vues,
Ben
d'attention à une
oui,
équipe.
ben
On
oui.
regarde juste en NCAA, au basketball féminin, on avait parlé la semaine passée ou l'autre d'avant de ce que Caitlin Clark avait fait. Puis en ce moment, hier, il y avait le
Le
draft
draft.
PWHL, pas de PWHL,
W.
WNBA. Elle se fait choisir première, puis j'ai jamais vu autant d'engouement déjà pour le draft WNBA. Puis de gens qui disent, hey, moi, la saison prochaine, je veux regarder la PWNBA. WNBA, pas
Oui,
PWNBA.
pas
Je
de
mélange les sports, mais je veux le regarder constamment, puis tu sais, je vais devenir un fan de ça, puis c'est ça que ça pourrait amener au hockey, avoir une star comme ça, montante, puis.
Oui, puis tu sais, la PWHL en ce moment, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme si tu allais sur le jeu NHL, puis
Fantasy Draft.
tu faisais un fantasy draft, fait que tu te ramasses quand même au final avec tu sais, 6 équipes quand même égales. Là. Même si, bon,
Ouais.
Montréal, on a quand même eu peut-être les 3 meilleures signatures agents libres,
Oui,
alors
oui.
que quand tu
Mais ça,
regardes
qu'est-ce que tu
Ottawa,
veux?
c'est peut-être pas la même affaire. Mais tu sais, au final, là, c'est 6 équipes en ce moment qui sont vraiment, vraiment serrées, puis que. T'sais, à la limite, on pourrait refaire la saison 1000 fois, puis on n'aurait jamais le même gagnant, là, t'sais.
Non.
Mais là, quand il y aura des nouvelles équipes, parce qu'on sait qu'il y a des villes qui commencent à vraiment être intéressées,
Avec raison.
t'sais, Pittsburgh avait reçu du monde carrément dans le AT&T, donc leur aréna des Pingouins. Mais t'sais, quand il y aura plus d'équipes, quand il y aura justement des joueuses de même qui vont entrer, t'sais, une filière, là, ça va avoir un impact, que tu aies eu le premier choix ou le sixième choix. Parce que t'sais, on s'entend que recevoir filière, ou recevoir, même si, bon, je ne la connais pas, la sixième qui va sortir, là, mais tu sais, ça se peut quand même que le gap soit grand, puis que là, tranquillement, justement, il y a des équipes qui se ramassent avec des stars, des nouvelles stars, fait que c'est là que ça va commencer vraiment à être de plus en plus intéressant, puis là, il y aura des Santerre, des Lucier, des Sims qui vont rentrer, donc on va comme avoir comment dire, une hausse de la qualité des joueurs, tu sais, parce qu'on savait qu'au début de la saison, ça allait être ça le plus gros problème, que les premiers, deuxièmes trios, premières, deuxièmes paires défensives, pouvait vraiment être d'une coche vraiment supérieure au troisième, quatrième trio. Donc, ça va comme, tu sais, à un moment donné, ça va s'égaliser.
Puis aussi, c'est à un moment donné, c'est la persistance, tu sais, tu veux développer. Il y a beaucoup de joueurs de hockey en ce moment qui ont abandonné le hockey trop tôt selon leur talent parce qu'il n'y avait pas de déboucheur. Fait que, tu sais, oui, dans les 5 prochaines années, ça va devenir encore plus excitant, mais tu sais, imagine dans les 10 prochaines années, maintenant, les joueurs qui commencent à jouer, là, celle qui a 7-8 ans, puis qui est, tu sais, un talent naturel, quand tu es au hockey masculin, on dit
Ben,
oui,
le
mais,
Kucherov.
vas-y, là. Ouais, le Pushunova, mais tu sais. Elle, c'est un exemple de quelqu'un qui n'a pas abandonné. Le Nielsen Santerre, c'est des gens qui ont continué à pousser aussi, malgré le fait qu'il n'y avait pas de ligue professionnelle. Maintenant, il y a des joueurs qui, à 7-8 ans, quand le talent commence à se développer, ils ont changé au, je sais pas moi, au basketball parce qu'ils aimaient un peu plus ça. Puis finalement, tu sais, il n'y avait pas de déboucheur au basketball, il y a plus de déboucheurs, je sais pas. Mais finalement, tu sais, cet effet-là ne se fait pas ressentir du jour au lendemain. Ça se fait
Non.
ressentir avec le temps. Puis, ça rentre bien dans notre dernier truc sur lequel on voulait parler,
Ben,
c'est que.
hockey féminin, là, il en restera un autre.
Okay, oui, mais c'est que justement au Québec, pour qu'on soit des leaders dans le futur du développement du hockey féminin, il y a eu un changement. On avait parlé un petit peu avec Ariane la semaine dernière, mais c'était surtout avoir son opinion à elle. Fait qu'on voulait vous en reparler un petit peu plus officiellement maintenant, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais avant, au Québec, la personne qui s'occupait du développement des jeunes, puis que tout soit uni, que le hockey au Québec, tout marche bien, c'était le directeur de Hockey Québec. Puis Hockey Québec, maintenant, ont décidé de séparer. En fait, c'est comme s'il y avait deux organisations Hockey Québec, une pour le masculin, une pour le féminin. Puis déjà, avoir quelqu'un qui s'occupe juste du hockey féminin, c'est déjà une bonne chose. Là. Déjà que hockey masculin, c'est énormément de ligues. C'est une job qui pèse énormément sur le mental, puis il y a tellement de choses à gérer. QM15, QM17, puis on a vu Justin Thibault.
Il n'y a pas juste Elite, justement,
avec
la noue.
Il y a tellement de... Tu sais, tous les niveaux avant aussi, il y a puis quand tu es directeur de Hockey Québec, tu n'es pas juste directeur des gens qui vont se rendre à l'LNH. Tu es directeur de tout le hockey au Québec. Fait que séparer déjà masculin et féminin, ça va peut-être enlever une petite charge mentale au directeur, puis permettre à la directrice justement de faire une bonne job au hockey féminin. Puis quand on regarde aussi les nouvelles règles, admettons, que la PWHL amène, la physicalité dans le hockey féminin, c'est complètement différent que dans le hockey masculin. Donc, tranquillement, déjà en ce moment, ça n'a pas l'air d'être le même sport, même si c'est le même sport techniquement. Là, c'est deux, c'est hockey masculin et féminin, c'est complètement différent. Mais là, en plus, il y a des règles qui commencent à changer entre un et l'autre. C'est juste logique d'avoir quelqu'un qui s'occupe, tu sais, qui peut s'occuper que dans toutes les ligues de hockey féminin, on met les meilleures règles possibles pour que quand il arrive dans la PWHL, il soit le plus prêt possible. Alors que dans le hockey masculin, on peut mettre la courbe de développement le mieux possible pour que quand il arrive dans la LNH, il soit prêt pour le jeu, parce que c'est deux jeux qui sont très, 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 très différents, même si c'est le même sport.
Oui, puis c'est cool aussi justement de encore plus concentrer, de donner carrément toute leur énergie au hockey féminin, puis pas avoir la division. Fait que j'ai vraiment hâte de voir, est-ce qu'il y aura plus de programmes universitaires féminins, y aura-tu des subventions,
Est-ce que aussi les talents québécois vont rester? Là, admettons, si cette décision-là de séparer entre masculin et féminin avait été faite un peu plus tôt, est-ce qu'on aurait une talente comme Héloïse Caron, qui est la meilleure joueuse du CGPL cette année, aurait décidé de rester au U-Sport au Québec à la place d'aller jouer à Northeastern?
Oui, ben c'est ça. Fait que c'est quand même très intéressant. Ouais. Ça va être à voir. C'est beaucoup de si, mais c'est ça qu'on a en ce moment. Fait que,
c'est du positif à la fin de la journée. Hâte de voir.
Nous, en fait, on en parle vraiment parce qu'on veut dire à quel point on trouve que c'est encourageant. Puis de faire ce move-là, ça veut dire que c'est là pour rester. Puis justement, là, cette fois-ci, c'est différent avec la LPHF.
Oui, c'est vraiment encore un signe pour vrai.
En parlant de quelque chose qui est permanent, on va parler de quelque chose qui est temporaire. Puis ça va être les Coyotes d'Arizona, notre dernier sujet pour ce soir. Donc, ça s'est vraiment fait, on dirait, là, un claquement de doigts. La semaine passée, c'était des petites rumeurs par-ci par-là, des jokes. Et là, tout d'un coup, bam, c'est fait. Arizona ne revient pas. Il y a eu des sorties comme quoi, ben, on ne sait pas les joueurs, mais ils disent pourquoi on voudrait rester ici. On a les pires avions, les pires ci, pires ça. Donc,
ils ne payent pas leur hôtel.
C'est ça, ils ne payent pas les hôtels. Ils jouaient dans un aréna de 5000 personnes. Il y a des joueurs qui ont dit qu'ils n'avaient même pas le sentiment de jouer dans la Ligue nationale quand ils jouaient pour les Phoenix. Ils s'en vont au Utah. On s'entend que c'est pas très loin, puis ça va. La température n'est pas tant différente. Je peux quand même dire que Utah, il fait chaud. Inquiétez-vous pas. Salt Lake City, ça va être une très belle ville, une très belle place pour vivre. Fait que vraiment, vraiment, c'est cool, c'est encourageant. Là, en plus, le propriétaire Dylan Smith, si je ne me trompe pas.
Celui des Jazz
ou Zach Smith, celui des Utah Jazz, justement, il a l'air tellement d'un propriétaire que tu veux, d'un gars qui va, un peu comme un Endlauer, un gars qui va investir, un gars qui est prêt à pousser le sport, à créer une équipe qui va rester longtemps. Puis tu sais, quand on y pense, le Seattle, c'était ça aussi, c'est la nouvelle vague de franchise NHL, c'est comme les villes qui étaient oubliés aux États-Unis. C'est les villes qui ont du monde, qui ont un marché, mais qui étaient oubliées. Puis c'est plus des ligues, des équipes de l'Ouest.
Puis le fait aussi qu'ils soient propriétaires des Jazz, puis que les Jazz aussi jouent au même endroit, ça montre vraiment comme un attachement à la ville. Puis je pense que ça, c'est quand même très, très important d'avoir un propriétaire qui est non seulement attaché à l'équipe puis au bien de l'équipe, mais tu sais, qui veut aussi... Il est vraiment attaché à son équipe. Tu sais, c'est son équipe, il n'y en a pas une à Pittsburgh puis une en Floride. Là. Les deux sont dans la même ville. Fait que c'est quelqu'un qui est grand. On verra. Là, peut-être que finalement, ça va être le pire honneur de l'histoire de la LNH. On ne sait jamais, mais c'est très encourageant. Puis pour les fans des Coyotes aussi, tout espoir n'est pas perdu. L'entente en ce moment qu'il y a avec la Ligue, c'est qu'éventuellement, dans les 5 prochaines années, la Ligue va augmenter d'équipe, va se rendre à 36 équipes. Et si, en ce moment, le propriétaire des Coyotes, Morello, a encore tous les droits pour le branding, tout ce qui est le nom de l'équipe, s'il arrive à avoir une entente pour construire un nouvel aréna qui a de l'allure, dans une des villes en Arizona, ça peut être Phoenix, Scottsdale, tant que c'est pas dans le fond nulle part. Ouais, tu sais, quand même une grosse ville en Arizona. La LNH lui ont dit qu'il pourrait avoir son équipe via une expansion. Fait que ça sera pas la même équipe, mais ça aurait tout le même branding. Fait que tu sais, dans le fond, c'est comme si les Jets, à la place d'avoir été les Trashers, il y aurait eu un draft d'expansion. Fait que les Coyotes, s'ils reviennent, reprendront pas tout leur espoir, tout leur pic. Il va se trouver propriétaire d'une toute nouvelle équipe, mais avec le même nom. Fait que si vous êtes fan des Coyotes, c'est tout espoir n'est pas perdu. C'est peut-être pas la fin, mais il faut dire quand même que dans les nouvelles récentes, les maires de ville en Arizona n'ont pas l'air super ouverts pour le moment, mais il peut se passer tellement de choses en 5 ans, puis il peut se passer tellement de choses juste en 1 an. On l'a vu avec les Coyotes là, au début de la saison. C'était pas tant ça l'histoire. Tu m'as dit que les Coyotes jouent en Utah l'année prochaine.
Ça sort
surprise.
Puis justement, tu as parlé de l'aréna qui serait le même que Utah Jazz. Smith a dit que ça serait temporaire quand même. Ouais. Qu'il voudrait en bâtir un autre parce que
c'est mieux que Molette,
pour le hockey, il pourrait accueillir 14 000 personnes. Donc c'est bien, mais c'est vraiment pas top.
C'est quand même 3 fois ce qu'il y avait avant.
C'est top. C'est 3 fois, c'est beaucoup plus, mais tu sais, c'est vraiment pas idéal en termes de NHL. Mais justement, Smith, il n'y a pas le problème qu'il n'est pas capable de trouver un endroit pour faire son aréna. Utah sont prêts pour faire l'aréna. Puis il y aura du monde. Le monde sont prêts à aller voir du hockey. Et ce qui est bien aussi de tout ça, là, c'est les Coyotes, c'est comme si ça faisait trop d'années qu'ils étaient médiocres. Ça faisait. Et là, tranquillement, t'as des coulées qui rentrent, t'as des Genter.
C'est bon moment.
T'auras les Simachev, les Boots qui vont rentrer. Fait que tu sais, là, c'est un moment où justement, Salt Lake vont avoir leurs jeunes. Ça va pas être juste une équipe qui est déjà. Tu sais, quand les Trashers ont été déménagés à Winnipeg. L'équipe des Trashers était déjà comme une équipe de vétérans. Il n'y avait pas vraiment rien de comme de, pour s'approprier ou s'imaginer. Alors que là, c'est vraiment comme, OK, ben, Cooley, quand il arrive, oui, il aura joué sa première saison cette année avec les Coyotes, mais l'année prochaine, Cooley, ça va être leur jeune à eux, à Utah.
Ça va être autant excitant qu'une des nouvelles équipes comme Seattle, admettons.
Ben oui, c'est ça.
C'est pas la même façon que les équipes arrivent. Seattle, c'est en draft d'expansion, mais en ce moment, ça marche parce que Shane Wright, qu'est-ce qu'il va devenir? Matty Beniers, la saison dernière, il était dans la discussion. Probablement la meilleure rookie à avoir joué, dépendamment de votre opinion. Mais tu sais, c'est super excitant comme hockey à regarder. Puis cette saison, ça a un peu moins bien été. Mais tu sais, quand même, il y a beaucoup d'espoir pour le futur. Puis les Coyotes déménagent à un moment où justement, eux avaient beaucoup d'espoir pour le futur. Très, très triste pour les gens qui habitent en Arizona puis qui supportaient les Coyotes. Mais super excitant pour Utah parce que non seulement vous avez une nouvelle équipe, mais c'est pas aussi. La dernière équipe mal gérée, qu'il n'y a aucun futur. C'est plus excitant, admettons que. Pas pour envoyer des flèches ou rien, mais admettons que le futur de Pittsburgh, admettons.
Oh, ouais, non. Puis à quelque part, peut-être ça aurait été intéressant. Justement, une équipe comme Washington, genre, qui est en déclin, qui se ramasse dans une équipe, justement, où est-ce que là, tu dois tout reconstruire. Mais qu'est-ce qui est nice, c'est que dès le début, ils vont pouvoir aller chercher la vente de billets. Puis Arizona, Utah devrait quand même être bon l'année prochaine. On regarde ça, avec Keller qui arrive en forme.
En espérant que ça finisse pas comme Buffalo, Ottawa, où ça fait une couple d'années où ils sont supposés être meilleurs. Puis, en tout cas,
puis après, je ne sais pas ce qui va se passer avec le DG. Ils n'en ont pas parlé. Est-ce qu'André Tourigny reste? Selon moi, André Tourigny, si tu l'as dans ton organisation, tu le gardes, tu t'en départis pas parce que je pense qu'il y a une couple d'équipes NHL qui vont appeler Tourigny dès qu'il se fait renvoyer ou qu'il se fait tasser. Fait que, vraiment intéressant. Est-ce que je crois que dans 5 ans, ils vont être capables de trouver un aréna en Arizona? Je pense que non. Je pense que ce projet-là, c'est juste carrément un fail. Puis à quelque part, Bettman, oui, il a battu pour que ça fonctionne, mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes là, parce que là, ça avait plus de bon sens. Puis je pense que l'aréna, c'était comme la petite goutte qui a un peu fait déborder le vase de comment.
Ben,
c'est pas capable de trouver d'aréna. Il y a pas. Tu sais, s'il y avait un plan pour un aréna dans 2-3 ans, là.
C'est juste que c'est pas faisable. Tu peux pas être une ligue. Nomme-moi une autre ligue professionnelle où une équipe joue dans un stade de en Amérique du Nord, là, je parle de NBA, MLB. Toutes les équipes où Le nombre de personnes qui assistent au match est en dessous de 5000. C'est des équipes qui ont des rumeurs comme quoi ils s'en vont. On a les A's, admettons,
Ouais.
au baseball,
Les Oakland, ouais.
les Rays. C'est toutes des équipes qui ont en dessous de 5000. C'est des équipes qui sont en déclin total, là, qui s'en vont vers nulle part. Puis Arizona, je sais que leur max, c'était 5000, mais ça s'en allait nulle part. Il faut que tu aies un projet, là.
Puis les 5000, la plupart du temps, c'était rempli des fans de l'autre équipe. Donc, tu sais, j'en ai vu des fans des Coyotes déçus. Puis c'est normal, à un moment donné, quand ça fait quoi, 25 ans qu'ils étaient là, les Coyotes, tu sais, c'est triste de voir son équipe partir. Puis aussi, moi, c'est surtout ce que je trouve qui va être déplorable, c'est beaucoup l'impact que ce que les Coyotes ont eu en termes de, tu sais, Austin Matthews.
Ouais.
Tu sais, c'est des gars de même que tu te dis,
sans
ben,
ça.
Josh Dome, mais tu sais, c'est des gars de même que tu te dis, ils sont nés en Arizona, sûrement qu'ils sont rentrés dans le hockey parce qu'il y avait les Coyotes. Tu sais, j'ai vu un tweet d'une mère qui expliquait que son fils de 8 ans ne voulait pas aller à sa pratique parce que les Coyotes partaient. Mais tu sais, c'est quand même
C'était
ça
le
qui est
prochain
triste.
Crosby.
C'est ça, c'était le prochain. Fait que c'est poche qui quitte. Mais
Merci, Batman.
Tu sais, dans le sens, c'est ça qui est peut-être dommage, c'est que ça va peut-être moins pousser les Arizonois à jouer au hockey. Mais en même temps, ça n'a pas empêché les femmes de jouer au hockey tout ce temps-là sans avoir de ligue
Ouais.
professionnelle. Donc, à un moment donné, les excuses, on va se calmer. Puis, il y aura peut-être plus de monde de Utah qui vont se ramasser dans la Ligue nationale dans 20 ans.
Oui, qui sait,
Donc,
il faut être un positif partout,
c'est
là.
ça, c'est peut-être un perdu de se retrouver. Tu sais, on sait pas. Peut-être
À
qu'il y a plus
voir.
de monde pro hockey en Utah. Mais ça, pour
Peut-être
dire
que
que.
le prochain Sidney Crosby, c'est quelqu'un de Amish de Utah.
Oui, ben,
Qui
c'est ça.
sait,
On
qui
sait pas.
sait.
Il va jouer avec une palette droite.
Mais écoute, sur ce, merci encore d'avoir écouté à tout le monde un épisode un petit peu plus de nouvelles. Puis, j'aimerais quand même dire s'il y a des. Je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent jusqu'à la fin, mais s'il y a quelqu'un qui regarde jusqu'à la fin puis qui attendait l'analyse, dû à quel point on a des horaires occupés, on n'a pas eu le temps de faire celle de Justin Poirier qui est prévue. Mais le mardi prochain, il n'y aura pas d'épisode complet parce que Jules qui est en voyage, mais on va mettre promis.
Oui.
L'analyse de au moins Justin Poirier, puis si on a le temps, peut-être une autre, mais celle de Justin Poirier, ça va être mis mardi prochain à la place de Dans le Mille, ça va être uploadé sur la chaîne de sur la bande. Donc, pas d'épisode, mais
Mais
une
quand même,
analyse,
ouais.
c'est mieux que rien.
Puis regardez, c'est ça, c'est des temps mouvementés, donc c'est ça, moins de temps, mais on va essayer vraiment de faire le plus d'analyses de joueurs parce qu'il y en a beaucoup de joueurs à
Non.
analyser. Puis le draft, je veux pas, s'en vient quand même à grands pas.
Ouais.
Merci beaucoup tout le
Bonne
monde.
soirée tout le
Bonne
monde.
soirée.